Monsieur le Dirkab, bonjour.
Bonjour.
Beaucoup d'habitants, surtout au niveau de Bangui, se plaignent du fait que les animaux domestiques mal gardés en divagation dans la ville commettent trop de gaffes dans le milieu social. À votre avis, quelles sont les conséquences de cette situation dans les relations sociales?
L'élevage est réglementé par la loi du 3 juin 1965. Et la divagation des animaux trouve sa place aussi dans cette réglementation. Que tous ceux qui élèvent des animaux ne peut pas laisser les animaux en divagation. Mais vous voyez, le contexte évolue aussi. Et surtout, si vous parlez de Bangui, il s'agit du petit bétail. Le petit bétail, généralement, les habitants les gardent autour de la case, autour de la maison. Que ce soit les poulets, que ce soit les porcins, les animaux de compagnie, les chiens, les chats. Et si on parle d'une divagation qui est gênante, je suis entièrement d'accord, mais pour la ville de Bangui, c'est beaucoup plus des porcins. Les caprins, vous les trouvez aussi, mais pas en grand nombre, sauf si vous sortez un peu dans la périphérie. La volaille, c'est un peu réglementé, puisque généralement, la volaille améliorée, les propriétaires construisent des poulaillers. Même là encore, il existe des conditions. On ne va pas mettre les poulaillers juste à côté des maisons d'habitation parce qu'il y a des odeurs qui se dégagent et ça gêne. Les animaux dont la divagation pose problème, c'est le chien. Et c'est le porcin aussi. Les chiens, quand ils font la rage, c'est dangereux. La rage étant ce qu'on appelle une zoonose majeure. Ça veut dire que lorsqu'un chien est atteint de la rage, c'est un danger pour les hommes, c'est un danger pour les animaux. Parce que le chien enragé ne respecte plus son maître, il va le mordre, il va mordre les gens de sa maison. Il sort, il va mordre d'autres animaux à qui il va transmettre le virus. Et c'est dangereux. Donc la divagation des chiens est un réel problème, comme vous le dites. C'est pour cela qu'en plus de la loi, il existe des dispositions particulières en ce qui concerne les chiens. Tous ceux qui gardent les chiens devraient les mettre à la tâche ou bien les mettre dans leur concession. Et tout dépend de l'objectif. C'est un chien de garde, c'est un chien de chasse, donc on ne peut pas le laisser en divagation. Et selon la réglementation, un animal, un chien en divagation, la loi nous donne l'autorisation de les abattre. Mais pour abattre, on ne se lève pas un matin comme ça, on dit on va abattre. Il faut passer par une sensibilisation. On a conçu un plan conjoint, ministère de l'élevage, ministère de la santé publique, et dedans, il y a cette rubrique abattage des chiens en divagation. C'est un processus. Il faut mobiliser les moyens, les ressources. Il faut sensibiliser les gens et leur donner un délai qu'à partir de telle date, tous les chiens errants ou les chiens qu'on trouvera en divagation seront abattus. Je dis abattus. Dans la réalité, on les capture d'abord et on va leur donner la mort par les procédés appropriés. Parce qu'on ne va pas venir avec des fusils et tirer sur les chiens. C'est pour cela que je parle de moyens. Il faut mobiliser le dispositif, mobiliser les hommes, avertir les gens et faire la descente sur le terrain pour capturer ces chiens errants et les abattre, qu'ils soient enragés ou pas. Donc, c'est là, on est encore dessus. Je ne peux pas vous dire à quand, mais si la chose venait à se concrétiser, vous, en tant qu'homme de presse, vous serez informé.
Particulièrement vers Miskine, une dame qui, selon les informations, aurait près d'une cinquantaine de chiens qu'elle ne revend jamais. Ces chiens empêchent tout le monde de passer. Même les voisins ne peuvent pas sortir et puis revenir à une heure tardive parce que les chiens viennent les attaquer. Ils bouffent les poulets de chair dans les quartiers, perturbent énormément avec leur aboiement pendant toute la nuit.
Tout élevage a un objectif. Si vous élevez des bovins, c'est soit pour produire le lait, soit pour produire la viande, soit les deux. Donc vous ne pouvez pas les garder indéfiniment. Il en est de même pour les autres animaux. C'est beaucoup plus pour la viande. À un moment, vous êtes tenu aussi de vendre. Mais si cette dame a une cinquantaine de chiens et vous dites qu'elle ne vend pas, c'est ça qui est un peu étonnant. Si c'est ça, c'est ce qu'on appelle un chenil. Ça veut dire qu'elle s'est spécialisée dans l'élevage de chiens. C'est des chiens de garde, c'est des chiens de chasse ou quoi. Et à un moment, elle devrait vendre. Mais si elle trouve le malin plaisir de les garder, il faut qu'elles prennent les dispositions. Soit de les mettre dans un enclos, une clôture, de voir à quel moment elles les libèrent pour ne pas que ces chiens gênent la quiétude, la tranquillité des voisins. Les gens sont allés vers le chef. Le chef, en principe, devrait être en mesure de régler ce problème. S'il ne peut pas, avec l'appui du service de l'élevage, les techniciens iront sur le terrain pour voir, constater et donner d'abord des conseils. C'est notre rôle. Il faut éduquer d'abord. Lui, dire les dangers qu'elle a de garder. garder ce chien comme ça. Et comme il y a déjà des plaintes, si elle ne veut pas écouter ce que l'élevage dit, si ce chien-là commet des forfaits, soit en mordant, soit en tuant des poulets ou en volant la viande des gens et autres, ces gens peuvent aussi se plaindre. Ce n'est pas à nous de régler. Ils vont se plaindre auprès des hommes de loi. C'est la gendarmerie, c'est la police. Eux, ils savent que faire pour régler de tels trucs. Mais nous, c'est l'aspect divagation qui gêne. Ou bien si ce chien-là mord, c'est là que nous intervenons. Mais quand nous intervenons, c'est que la loi fait obligation que cette dame-là, lorsqu'un de ses chiens va mordre, il faut que le chien soit emmené à la clinique pour qu'on le mette en observation pour voir s'il est enragé, pour prendre les dispositions qui s'imposent par rapport au chien et par rapport à la personne mordue, ou bien il a mordu expressément. Mais dans tous les cas, il faut obligatoirement que le chien soit présenté à la clinique pour une mise en observation. Mais ce que vous dites là, c'est un cas isolé. Ça m'intéresse en tant que vétérinaire. On pourra prendre contact, envoyer des gens pour voir. Et commencer par ce que je dis là, éduquer, informer la propriétaire, connaître ses intentions et lui donner des conseils. Si elle suit, tant mieux. Si elle ne suit pas et que ses chiens sont toujours là en surnom pour commettre des gaffes, les victimes, les voisins qui sont mordus ou bien dans les poulets, sont tués, peuvent se plaindre devant les hommes de loi et ils pourront régler.
Les autres catégories d'animaux domestiques qui, à votre avis, peuvent faire l'objet d'une divagation qui puisse déranger?
Après les chiens, ce sont les porcins ou les porcs. Les cochons. C'est un élevage qui se développe. Certains propriétaires construisent des porcheries. D'autres ne construisent pas. Mais ce que nous constatons, pour la plupart, même ceux qui construisent la porcherie, c'est juste un abri de nuit. Et dans la journée, ces porcs-là sont en divagation. Ils vont partout, ils vont fouiner partout. Parce que c'est quand on les met en claustration, il faut leur apporter l'alimentation qui convient. Et c'est ça qui fait défaut. Et les propriétaires préfèrent les laisser en liberté pendant certaines heures de la journée. Et le soir, on les ramène. Je disais que ça nous pose problème dans la population. Ah, le porc a croqué le savon de la voisine, a renversé ceci, et c'est le problème.
Par inadvertance, des mamans, les porcs peuvent dévorer même des bébés.
Oui, le cochon est omnivore, donc consomme un peu de tout, comme nous les humains. Certains porcs sont agressifs, vis-à-vis des enfants surtout. Les porcs, quand ils sont en divagation, ils vont déposer la matière fécale un peu partout, et généralement, le porc, c'est un animal qui héberge des ténias. Donc, quand il dépose sa matière fécale, si par hasard ces matières fécales contiennent des œufs de ténia, mais c'est une source de contamination. Parce que après, les œufs de ténia iront sur la salade. Si on ne prend pas les précautions au moment de la préparation pour la consommation, ça fait des problèmes. On peut trouver aussi des kystes de ténia dans la viande, mais ça c'est à l'abattage. Mais vraiment, de leur vivant, quand ils sont en divagation, c'est un danger pour la circulation. Quand ils traversent la route, ils peuvent renverser un motocycliste, ça peut causer des accidents. Dans les quartiers, ça fausse les relations sociales parce que le porc a détruit ceci, a fait cela, et c'est des plaintes, c'est des palabres dans les quartiers, alors qu'on est au moment de la cohésion sociale et qu'on devrait éviter ces petits trucs. Il y a une mission qui était dans la Mambéré Kadéi, donc qui a fait Berberati, Nola, ils sont allés jusqu'à Salo, Bayanga, tout ça, parce qu'il y a eu une épisode aussi de peste porcine qui a décimé tous les cheptels là-bas. Donc, informé, le ministère, avec l'appui de la FAO, parti sur le terrain, ils ont ramené des prélèvements qui sont en train d'être analysés à l'Institut Pasteur pour le moment. On nous fait comprendre qu'il y a des mortalités à Sibut et il se pourrait que ce soit aussi la peste porcine africaine. Et dans les jours à venir, il y a une équipe de l'Institut Pasteur de l'AN2 qui iront aussi sur le terrain pour le faire. Et nous, ici à Bangui, nous avons sillonné certains arrondissements où nous avons récolté des échantillons qui sont aussi en train d'être analysés. Et la principale maladie que nous recherchons...
C'est échantillons de prélèvement de sang.
Oui, des prélèvements de sang. Mais quand le porc meurt, on prend du sang. Mais on fait aussi des écouvillonnages. Donc, c'est des tiges de coton, on va enfoncer dans les narines pour prendre dans la bouche, la cavité buccale, tout ça. Donc, on a 16 échantillons que nous sommes en train d'analyser. C'est pour rechercher le virus de la peste porcine africaine, puisque la peste porcine africaine est un véritable problème chez nous. Chaque année, nous avons des épisodes qui surviennent et qui peuvent tuer tout un cheptel d'un village ou d'un quartier. C'est le cas que nous vivons. Mais heureusement que la peste porcine africaine n'est pas une zoonose. C'est pas comme le ténia dont je venais de parler là. Mais c'est dangereux parce que sur le plan économique, quand ça survient, vous perdez tout. Mais la viande aussi, si on est conséquent, on ne peut pas manger parce que la viande est repuyante. Le porc qui meurt de peste porcine africaine, la viande est complètement rouge. Ça ne donne pas envie de manger.
Docteur Emmanuel Namkoïsé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.